Et je vous invite à nouveau à ouvrir la parole dans le texte de la prédication d'aujourd'hui, que nous allons continuer dans la première épître de Jean, au chapitre 4, des versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici la parole.
Sans amour, pas de vie. Et sans esprit, sans le Saint-Esprit, pas de compréhension de sa parole. C'est pour ça que nous implorons l'œuvre de l'Esprit-Saint encore ce matin pour comprendre sa parole que nous voulons, dans laquelle nous voulons nous plonger. Dans la suite de cette série sur 1 Jean, nous avons pris le temps la dernière fois dans le début du chapitre 6, chapitre 4, les 6 premiers versets, de parler de reconnaître la vérité de l'erreur pour être capable de l'écarter. C'est un exercice important et salutaire. Mais parfois, cela amène à de la suspicion, du manque d'égard et mène à des tensions. Et l'apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit, ne veut surtout pas voir ses frères et sœurs dans la foi dans des conflits. Voilà pourquoi il revient avec force sur le commandement de l'amour. En fait, dans l'épître selon Jean, eh bien, c'est la troisième fois qu'il revient sur ce sujet de l'amour. Déjà la troisième fois. La première fois, au chapitre 2, les versets 7 à 11, nous avions parlé ensemble du test de l'amour. Vous vous souvenez, dans l'épître de Jean, il y a trois tests pour savoir si nous sommes dans la foi. Et l'un de ces trois tests est le test de l'amour. Et nous avions parler de l'ancienneté de ce commandement de s'aimer les uns les autres que Jésus a donné et de la nouveauté de ce commandement. Et en fait, cet amour que nous avons vu dans le chapitre 2 indique la communion véritable avec Dieu. Voilà la focalisation de Jean dans cette première fois. Ensuite, au chapitre 3, une deuxième fois où il parle de l'amour et il le fait pour souligner cette appartenance à la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons le Père et nous nous aimons les uns les autres. Cet amour indique en fait l'appartenance du croyant au Père. Ça, c'était la deuxième fois que Jean parle de l'amour. Et voilà, dans le chapitre 4, il parle une troisième fois de l'amour. Il en parle de façon plus sublime encore ici et plus approfondie parce qu'il pose les éléments théologiques fondamentaux pour parler des origines de l'amour et de ses effets. C'est d'ailleurs nos deux points ce matin. Il y a deux points. Le premier, c'est d'où vient l'amour chrétien? C'est son origine. Et le deuxième, eh bien, nous parlerons de où va l'amour du chrétien? C'est-à-dire, ben, quels sont ses effets? C'est les deux éléments qu'on va voir ce matin. Cette prédication est simplement intitulée Dieu est amour. Dieu est amour. Et cette expression Dieu est amour ne se trouve que dans ce livre de la Bible de 1 Jean, hein, à deux endroits. Si vous avez vos Bibles ouvertes, je vous encourage à les avoir ouvertes, hein, dans 1 Jean 4. Vous le voyez au verset 8 et au verset 16. Dieu est amour. C'est la première clé pour comprendre tout ce passage ici. La deuxième clé se trouve au verset 19, où il est dit, nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Donc, tout est basé sur ces deux affirmations. La première, Dieu est amour. Et la deuxième affirmation, nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier. Donc ces deux affirmations, si vous retenez ces deux affirmations, vous avez déjà l'essentiel en fait, hein, et nous allons maintenant développer cela. Donc commençons par prendre un peu de temps pour réfléchir à l'origine de l'amour. D'où vient l'amour chrétien? C'est vrai qu'en préparant cette prédication, j'ai encore mieux compris une chose. C'est que l'amour dont on parle souvent autour de nous n'est pas l'amour selon Dieu. On parle beaucoup d'amour dans notre monde. Mais les écrivains du Nouveau Testament, guidés par le Saint-Esprit, ont quasiment inventé un nouveau mot pour l'amour de Dieu. C'est le verbe « agapé », qui est très peu utilisé dans le grec profane, en fait. « Agapé », c'est l'amour totalement tourné vers l'autre. Un amour totalement tourné vers l'autre, où le cœur est complètement impliqué. Agapé, c'est un amour totalement tourné vers l'autre, où le cœur est complètement impliqué. Et le cœur, selon la Bible, nous l'avions vu dans une étude biblique, est formé de trois parties. Le cœur est formé de trois parties. Les sentiments, l'intelligence et la volonté. Les sentiments, l'intelligence et la volonté. Et ces trois ensemble, vécus ensemble, tournés vers l'autre, c'est ce qu'est l'amour agapé. La définition de l'amour autour de nous est plutôt liée au sentiment et au plaisir, mais pas au don de soi ou à la sainteté ou à la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit, par Jean, nous invite à nous aimer les uns les autres dans l'Église selon un amour particulier. C'est pas celui qui nous est présenté au cinéma ou dans les romans romantiques. Lisons les versets 7 et 8 ensemble pour voir quelle est l'origine de cet amour. Versets 7 et 8 de 1 Jean 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'apôtre commence en fait ici par l'application. Elle dit « aimez-vous les uns les autres ». Il commence par l'application, ensuite il réfléchit à ce qui permet de vivre cela pour arriver à la notion fondamentale. Nous avons souvent en fait une logique inverse. Souvent, nous posons d'abord le fondement, puis on réfléchit à ce que cela signifie et on cherche les moyens à disposition pour ensuite les appliquer. Jean fait l'inverse ici. En fait, si on reprend dans un ordre logique, il parle du fondement. Le fondement, c'est Dieu est amour. Il termine par cela ici. Mais c'est le fondement. Dieu est amour. Ensuite, connaître Dieu et être aimé de Dieu, cela veut dire aimer, c'est la réflexion. Si Dieu est amour, si nous le connaissons et si nous sommes nés de lui, eh bien nous aimons. Et ensuite, quel est le moyen? Le moyen, c'est que cet amour, Dieu le donne. L'amour est de Dieu. Et la mise en pratique, eh bien, c'est de nous aimer les uns les autres. Vous voyez? Donc simplement, Jean inverse cette notion. Dieu est amour, c'est le fondement. la base, le puissant socle sur lequel nous nous appuyons. Et on ne peut pas inverser l'affirmation « Dieu est amour ». Sinon, nous retrouvons la pensée du monde qui dit que l'amour est Dieu. On ne peut pas inverser. Parce que le monde dit « l'amour est Dieu hein. ». On est prêt à tout faire, à faire n'importe quoi pour l'amour. L'amour par-dessus tout. L'amour qui doit tout diriger, tout guider, donner un sens à tout. Mais la Bible enseigne clairement que c'est Dieu qui doit tout diriger, qui doit guider, qui doit donner un sens. L'amour est une action, une manifestation, une expression, une marque, mais pas une raison de vivre. L'amour n'est pas Dieu. On ne peut pas inverser. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Donc ceci dit, nous pouvons dire que ce n'est pas l'amour qui définit Dieu, mais c'est Dieu qui définit l'amour. Ce n'est pas l'amour qui définit Dieu, c'est Dieu qui définit l'amour. Et c'est un amour particulier. Il n'est pas celui que l'on trouve dans le monde. Cet amour, en fait, est répandu dans le croyant par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans Romains 5. Romains 5, au verset 5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, donc l'amour de Dieu, hein, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cet amour particulier, cet amour agapé, vient de Dieu, il nous est donné par le Saint-Esprit. Celui qui connaît Dieu, qui est né de lui, va aimer de cet amour. Il va aimer de cet amour. Comme l'aiguille de la boussole, vous avez déjà vu une boussole ? Compass. Une boussole. Donc, une boussole qui est aimantée va toujours indiquer le nord. OK ? Le nord magnétique, hein. Bah, chipothèque, le nord cartographique, un nord magnétique. Donc, un chrétien va aussi manifester l'amour agapé parce qu'il est aimanté. Vous voyez ? Oh, c'est vrai que la boussole est malheureusement encore souvent brouillée hein, par toutes sortes de champs magnétiques perturbateurs, comme les lignes à haute tension des passions charnelles qui affolent l'aiguille, ou les objets en métal de l'égoïsme qui l'attirent et la font dévier, ou encore les téléphones mobiles du romantisme qui la font momentanément perdre le nord. Une boussole, quand un champ magnétique la perturbe, c'est vrai, elle monte plus nord. Mais en fait, quand elle est dans une situation... où il n'y a pas ces perturbations, elle montrera toujours le nord. Mais comme un chrétien, il vivra cet agapé. Et il y a une différence entre l'aiguille d'une boussole aimantée et un simple bout de métal en forme de flèche non aimantée. Dans des conditions favorables, seule l'aiguille aimantée dirigera au nord. La petite aiguille qui n'est pas aimantée, qui est peut-être aussi en métal, elle va dans tous les sens. Ainsi est toute personne née de Dieu, elle indique la source de l'amour en pratiquant l'amour agapé. Vous savez, une personne qui se dit chrétienne, qui est dépourvue de cet amour et qui dit connaître Dieu et être née de Dieu, est comme celui qui déclare être l'ami intime d'un étranger dont il ne parle pas la langue, ou d'être né de parents auxquels il ne ressemble en aucune façon. Non, impossible d'être chrétien selon la Bible sans amour agapé. Impossible. Mais celui qui est né de Dieu possède cet ADN. Il en a les traits de caractère de cette famille et il va petit à petit développer ses aptitudes. Évidemment, nous ne sommes pas encore dans la perfection. La perfection, Dieu nous la donne et nous la vivons petit à petit. Il va petit à petit développer ses aptitudes qui vont se manifester de diverses manières, puisque nous avons tous reçu des dons différents. Donc, ça va se manifester de manière différente. Mais l'origine de cet amour particulier, cet amour agapé qui se donne, c'est Dieu. Et c'est lui qui définit ce qu'est l'amour. C'est pas le monde qui dit qu'est-ce que c'est l'amour. C'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour et il le manifeste. Et c'est justement la deuxième partie de ce premier point. La manifestation ultime de l'amour agapé. Relisons les versets 9 et 10 qui nous en parlent. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous l'a manifesté. Il ne nous a pas seulement parlé, il nous l'a manifesté. Un jour, une personne qui était de l'armée du salut rencontra une femme en guenilles dans la rue et elle l'invite à entrer dans l'église pour y recevoir du secours, mais la femme refuse. Puis la jeune fille lui dit, mais écoutez, nous vous aimons, nous aimerions vous aider. Dieu vous aime, Jésus est mort pour tous ceux qui se tournent vers lui. Mais la femme ne bouge pas. Et là, sous l'influence divine, d'une inspiration divine, cette jeune femme se penche vers cette femme en guenille, l'embrasse sur les deux joues et la serre dans ses bras. Et la femme se met à sangloter et se laisse conduire en fait comme un enfant jusque dans l'église où elle sera aidée. Et bientôt elle croit en Christ. Et voici ce qu'elle dit. Vous disiez que Dieu m'aimait, mais ce n'est que lorsque vous m'avez montré que Dieu m'aimait que j'ai voulu être sauvé. Vous le disiez, mais c'est quand vous l'avez montré que j'ai voulu être sauvé. Dieu dit dans sa parole qu'il est amour. Eh bien, des gens disent alors, qu'il le montre alors, qu'il montre son amour, et alors je voudrais être sauvé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a montré. Dieu le montre encore aujourd'hui, et Dieu l'a montré de manière extraordinaire. Il n'a pas attendu que nous l'aimions. Il a fait le premier pas. Il n'a pas attendu qu'on l'aime. Il a fait le premier pas. Il est allé jusqu'à donner ce qui était le plus précieux. Il est venu en fait lui-même en Jésus-Christ et a donné sa vie. Ce texte de Romains 5, 7 et 8 devrait être dans notre cœur toujours, où il est dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore pécheurs, méprisables, quelque part, personne n'aurait voulu de nous. Il s'est donné totalement pour nous. Nous méritions le jugement, un juste châtiment éternel pour nos péchés, notre révolte contre Dieu. Et lui, il n'a pas renié sa justice. Il l'a appliqué, mais il l'a appliqué en expiant lui-même nos péchés. Si quelqu'un vous dit que Dieu nous montre son amour, mais montrez la croix, il est venu, c'est quelque chose qui est historique, qui s'est réellement passé. Il a payé nos fautes à notre place. Il l'a subi à la place de tous ceux qui se repentent et croient. Il l'a fait par amour. D'où vient l'amour chrétien? Vous savez, cet amour n'existait pas vraiment sur la terre avant la venue de Jésus-Christ. Oui, avec quelques éléments qui nous y faisaient déjà penser. Dieu manifestait déjà un amour particulier pour son peuple, par exemple. Hein, quand il dit, c'est pas parce que tu es grand, etc., mais parce que je t'aime, c'est vrai. Mais cet amour agapé a été manifesté en Jésus-Christ. On l'a vu quand on a parlé du nouveau commandement, hein, que c'était nouveau, parce que avant, il n'y avait pas cette notion d'aimer comme Christ a aimé en se donnant lui-même. Cet amour vient de Dieu, c'est un amour saint, un amour qui se donne, un amour imprégné de justice et de miséricorde, plein de bonté et de pureté. Cet amour vient de Dieu. Dieu est amour. Ce n'est pas l'amour que l'on prêche dans le monde. Ne cherchez nulle part ailleurs, en fait. Il n'y a pas à chercher l'amour ailleurs qu'en Dieu, c'est qu'en lui que nous avons cet amour-là. Et cet amour, la source de cet amour, c'est notre Dieu trinitaire. Le Père aime, le Fils aime, l'Esprit aime. Voyons maintenant les effets de cet amour selon le texte de 1 Jean. Hein, où va cet amour? Cet amour qui vient de Dieu, où va-t-il? Quels sont les effets? Eh bien, prenons les versets 11 et 12 pour voir un premier effet. Cet amour ne reste pas comme ça, suspendu. Hein. Verset 11, bien-aimé. Si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. L'amour de Dieu comme l'aiguille aimantée de la boussole est clairement visible. Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais Jésus a dit quelque chose. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus manifeste déjà Dieu. Ce texte nous indique que c'est l'amour qui nous manifeste. Jésus s'est manifesté, pardon, dans son amour, afin que nous connaissions Dieu. Jésus n'est plus là maintenant. Vous le voyez, Jésus? Non. Nous ne le voyons pas. Il va revenir, c'est vrai. Eh bien, comment est-ce que Dieu manifeste son amour maintenant? C'est par vous et moi. Par l'amour qu'il met dans nos cœurs. Dieu manifeste son amour parce qu'il demeure en nous. Pas besoin de faire de grands discours. Pas besoin d'expliquer ce qu'est l'amour. C'est notre vie qui va le montrer. Voici une petite illustration que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment marquante. En fait, le docteur Campbell Morgan, un célèbre prédicateur britannique, avait 5 fils. Et ces 5 fils l'ont suivi dans le ministère, sont aussi devenus prédicateurs. Et un jour, un visiteur est venu chez eux, les visiter, et il a osé leur poser cette question. Il leur a dit, mais lequel d'entre vous 6, donc le père et les 5 fils, est le meilleur prédicateur? Et là, ils ont tous répondu unanimement. Ils ont tous répondu, maman. Mais bien sûr, Madame Campbell Morgan n'avait jamais prêché un sermon en bonne et due forme dans une église, mais sa vie était un continuel sermon sur l'amour de Dieu. C'est faux, hein? L'amour parfait de Dieu se manifeste dans notre vie. Et nous pouvons en faire bénéficier les frères et sœurs de l'Église. Dieu nous donne un amour extraordinaire. C'est un don que l'on peut donner. Vous l'avez reçu si vous êtes en Christ. Eh bien, vous pouvez le donner particulièrement aux frères et sœurs dans l'Église locale où Dieu nous a placés. Quelle grâce! Et plus nous en donnons, et plus nous en recevons. C'est pas logique, hein? Enfin, si, c'est la logique de Dieu, c'est pas la logique humaine. Plus nous en donnons, plus nous en avons. Pourquoi donc ne pas aimer intentionnellement les gens de l'Église? On a l'intention de le faire. Je vais vous donner une idée. Vous pouvez en avoir d'autres, mais je vous en donne une, comme ça vous pouvez la prendre avec vous. Pourquoi ne pas se dire, dans l'année qui vient, chaque semaine, je vais manifester de l'amour agapé à une personne différente de l'Église, chaque semaine. Ainsi, nous partageons ce que nous avons reçu. Vous imaginez, ça fait déjà à peu près 50 personnes en une année. C'est pas mal, hein? Continuons dans 1 Jean pour voir les effets de cet amour. Versets 13 à 16. L'amour qui demeure dans le croyant par l'Esprit Saint. Verset 13. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Comment savoir si l'Esprit de Dieu habite en nous? Comment savoir cela? Eh bien, j'aimerais vous donner maintenant quelques manifestations de l'action de l'Esprit en nous. Hein, c'est vrai que nous ne les vivons pas tous au même degré. C'est vrai. Mais ces manifestations existent si l'Esprit de Dieu est en nous. Je vous en donne 10. Waouh, 10. Allons-y. Première manifestation de l'Esprit, c'est un appétit nouveau pour les réalités spirituelles. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas cet appétit pour les réalités spirituelles venant du Dieu Trinitaire, évidemment. Deuxièmement, le désir de prier Dieu le Père par le Fils, conduit par l'Esprit. Troisièmement, un besoin d'approbation divine. Une des manifestations de l'Esprit, c'est de se dire « je veux vivre de manière à plaire à Dieu ». Ça vient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quatrièmement, de nouvelles normes de comportement basées sur l'Écriture sans être arrêtées par le « qu'en dira-t-on ? » C'est-à-dire que je veux vivre selon ce qu'il me dit, ce que Dieu dit, peu importe ce que les autres disent. Non pas que je les mets de côté, mais je mets Dieu en premier. Cinquième manifestation, c'est une nouvelle espérance solidement ancrée en Christ. Une espérance solide qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit. Oui, je sais que mon Rédempteur vit. Sixième élément, une nouvelle joie dans le Seigneur, indépendante des circonstances. Et avoir une joie dans notre cœur, quelles que soient les circonstances. C'est Philippiens qui nous le dit, hein, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est là qu'on peut se réjouir en toutes circonstances. Septième élément, une fin de la parole de Dieu. On a envie de lire la parole. C'est quelque chose qui, voilà, c'est comme quand on a faim en fait, de nourriture. Mais on a faim de cette parole. Huitième élément, un besoin de communion fraternelle. On n'arrive pas à vivre sans avoir de communion avec nos frères et sœurs dans la foi. Si nous ne voyons pas nos frères et sœurs pendant de longs mois, on a un manque, ça nous manque. Mais ça vient de l'Esprit de Dieu, qui agit en nous. Neuvièmement, un amour particulier pour les frères et sœurs dans la foi. Est-ce que vous avez choisi ceux qui sont assis à côté de vous aujourd'hui? Vous avez choisi celui-là qui devait venir là. Bon, on a peut-être choisi de s'asseoir à côté de quelqu'un, c'est vrai, c'est bien, en couple, c'est super. Mais je veux dire, on ne choisit pas ceux que Dieu met dans notre famille spirituelle. Nous ne les choisissons pas. Et Dieu, par son esprit, nous donne un amour particulier pour les croyants. Vous imaginez ça? On aime. Moi, je trouve que c'est magnifique. Il y a des gens même parmi nous qu'on ne s'est pas beaucoup vus, mais je les aime. Ça vient de Dieu, les amis. C'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Et dixième partie, le désir de servir Dieu en réponse à son amour. Sans attendre un retour. Ça, c'est une œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'homme, c'est je fais quelque chose pour que Dieu me donne une bénédiction. L'œuvre de l'esprit, c'est je fais quelque chose parce que Dieu m'a aimé et je veux le glorifier et agir pour lui en retour. C'est ça l'œuvre de l'esprit. L'esprit de Dieu est donné aux croyants. On a vu ça dans l'épître aux Romains, dans nos petits examens qu'on a fait il y a 2 semaines. Dieu demeure en nous. Ainsi, nous demeurons dans l'amour, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, nous y croyons, nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu envoyé comme sauveur du monde, c'est ainsi que l'amour demeure en nous. J'aimerais vous parler encore d'un autre aspect, d'un autre résultat, d'un autre effet de cet amour. C'est les versets 17 à 19. L'amour bannit la crainte. Un verset qu'on connaît parfois un peu, il est là, on va aller le voir. Verset 17 à 19. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. La crainte. La peur. On voit beaucoup de peur autour de nous. J'en suis souvent très surpris et peiné d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai un peu cherché les peurs existantes. Je vous en donne une petite liste, mais vous verrez qu'elle est petite. J'ai pris que quelques exemples qui commencent par A. Après, vous pouvez faire toute l'alphabet encore. Hein. Mais il y a les acluophobies. C'est la peur de l'obscurité du noir. Les agoraphobies, la peur de la foule. Les aniotaphobies, la peur du célibat. Les arachnophobies, la peur des araignées, c'est connu. Les astraphobies, la peur du tonnerre. Les atychiphobies, la peur de l'échec. Et combien d'autres phobies existent encore? C'est pas facile de vivre avec ces phobies, avec ces peurs. Combien plus la peur du jugement, que de tout ce que nous avons fait de mal, tout va être jugé, même nos pensées. Quelle angoisse lorsque quelqu'un se rend compte que tout ce qu'il a fait de mal peut être découvert, peut être mis à jour publiquement. Mais l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui s'est manifesté par le don de son Fils comme victime expiatoire. Le jugement est déjà tombé sur lui. Il a été fait péché à ma place, à la place de tous ceux qui croient. Ainsi, nous aimons sans peur. Parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour premier bannit, chasse, éloigne, repousse, élimine toute peur, parce que je suis aimé de Dieu qui est amour, qui demeure en moi et qui a subi le châtiment à ma place. Il n'y a pas besoin d'avoir peur du jugement. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils qui a subi la peine à ma place. Le jugement est déjà tombé sur lui. Et cet amour habite en nous par son esprit. Et j'aimerais voir un dernier effet. J'aimerais prendre plus de temps parce que c'est absolument magnifique. Ici, dans le verset 19, là, je m'y arrête très peu aujourd'hui, mais le verset 19, hein, c'est une des clés. On l'a toujours en arrière-fond. Hein. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et les versets 20 et 21 nous parlent d'un amour qui ne simule pas. C'est pas un amour simulé. Ça n'existe pas l'amour simulé avec Dieu. Verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Impossible d'aimer Dieu sans aimer son frère. Sinon, c'est de la simulation. C'est impossible. Je n'ai pas dit que c'était facile d'aimer ses frères et sœurs. Je n'ai pas dit ça. On a besoin justement de puiser dans l'amour de Dieu. C'est évident. Mais on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son frère. C'est impossible. Sinon, c'est de la simulation. Donc, si nous avons des situations de vie, nous n'avons pas réglé des situations avec un frère ou une sœur, il faut les régler. C'est pas, on ne joue pas avec ça. C'est fondamental. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » sans aimer son frère et sa sœur. Et on va aller auprès de Dieu pour chercher la force, la patience, le pardon, et la guérison, etc. auprès de lui. Évidemment, nous avons besoin de tout cela. C'est pas facile, ça peut prendre du temps. Mais on le veut. Nous désirons cet amour pour notre frère et notre sœur. Vous pouvez avoir toutes les réponses théologiques. Juste. Être un modèle moral. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 13, verset 2. Mais bien entendu, si vous avez l'amour parfait, vous progressez dans la connaissance de Dieu. C'est pas des choses secondaires, c'est important. Vous progressez dans la connaissance de Dieu selon vos capacités. Et vous vivrez une vie morale, bien sûr, par amour pour notre roi. Mais ne simulons pas. On a des exemples frappants dans la Bible. Hein. Ananias et Saphira ont vendu un champ, sont venus apporter une partie de l'argent aux apôtres en disant que c'était le prix du champ complet. Ils simulaient en fait une générosité totale, qui n'en était pas une. Ça n'était pas du tout une générosité totale. C'est comme dire « j'aime Dieu et je n'aime pas mon frère ». Celui qui dit « aimer Dieu mais ne manifeste pas d'amour pour son frère ou sa sœur » est un simulateur d'amour, c'est un menteur. Je vous donne encore une petite histoire qui nous permet de réfléchir concernant le culte personnel par amour pour Dieu. Hélène était rentrée d'une retraite de jeûne pleine d'enthousiasme, comme souvent hein, les jeunes d'une retraite ou d'un camp, c'est à fond la caisse, hein, à propos de ce qu'elle avait appris. Nous avons eu des conférences formidables sur la façon dont il faut faire son culte personnel, a-t-elle raconté à sa sœur Janine. Alors je vais m'arranger pour faire tous les jours mon culte personnel. C'est bien. Une semaine après, tandis que Janine passait l'aspirateur proche de sa chambre, elle entend Hélène crier. « Quand est-ce que tu auras fini de faire tout ce tapage? Tu sais pas que j'essaye de faire mon culte personnel ?» Pam ! Elle tape la porte. Hélène avait encore à apprendre que le culte personnel par amour pour Dieu se manifeste par l'amour pour les autres. Si le culte personnel ne nous aide pas à aimer Dieu et notre prochain, il ne sert pas à grand-chose. Si cet exemple, c'est vrai, est négatif, il nous rappelle que nous avons besoin encore de progresser. C'est tellement vite arrivé. Oui, je veux aimer Dieu. Et tac, je suis irrité. Bien que Dieu nous donne la grâce, et c'est ça la grâce, c'est ça l'amour parfait. Cet amour, c'est que nous pouvons aller vers Dieu et dire, « Seigneur, je te demande pardon. Je m'en repens et je crois que tu as payé. Et je progresse par sa grâce. » N'hésitons jamais à aller observer, à lire, à chercher à comprendre, à nous imprégner, à boire à la source de l'amour auprès de Dieu qui l'a manifesté par son Fils Jésus-Christ. En conclusion, j'aimerais simplement rappeler nos deux clés de départ qui nous manifestent l'origine et les effets. Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et pour terminer, pour rappeler l'éclat de l'amour au calvaire, j'aimerais vous lire une prière qui nous aide à aller vers notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons donc prier. Mon Père qui est dans les cieux, élargis mon cœur, réchauffe mes sentiments, ouvre mes lèvres, alimente les mots qui proclament l'éclat d'amour au calvaire. Là, la grâce me débarrasse de mes fardeaux et les entasse sur ton Fils. Le fait transgresseur, malédiction et péché pour moi. Là, l'épée de ta justice a frappé l'homme, ton compagnon. Là, tes attributs infinis ont été amplifiés et l'expiation infinie a été faite. Là, le châtiment infini était dû et la punition infinie a été endurée. Christ a été totalement angoissé pour que je sois totalement dans la joie, rejeté pour que je sois accepté, foulé aux pieds comme un ennemi pour que je sois accueilli comme un ami, abandonné aux pires enfers pour que j'atteigne le meilleur ciel, dépouillé pour que je sois vêtu, blessé pour que je sois guéri, assoiffé pour que je sois désaltéré, tourmenté pour que je sois réconforté, rendu honteux pour que je sois héritier de la gloire, mis dans les ténèbres pour que je bénéficie de la lumière éternelle. Mon Sauveur a pleuré pour que toutes mes larmes soient essuyées de mes yeux, a gémi pour que je chante toujours, a enduré toutes les douleurs pour que je puisse avoir un jour une santé permanente, a porté une couronne d'épines pour que je porte un glorieux diadème, a baissé la tête pour que je puisse lever la mienne, a reçu des reproches pour que je sois accueilli, a fermé les yeux dans la mort pour que je puisse contempler le ciel sans nuages, a expiré pour que je puisse vivre éternellement. Ô Père, qui n'a pas épargné ton Fils unique afin de m'épargner, tout ce transfert que ton amour a conçu et accompli, aide-moi à t'adorer de mes lèvres et de ma vie. Ô que mon souffle soit une louange enthousiaste, mes pas flottant de joie lorsque je vois mes ennemis écrasés, Satan déconcerté, vaincu, détruit, le péché enterré dans l'océan du sang de la réconciliation, les portes de l'enfer fermées, le portail du paradis ouvert. Ô, va de l'avant, Dieu vainqueur, et montre-moi la croix puissante pour soumettre, réconforter et sauver. Amen.